votre nouvelle vie était en Lozère.
Une émission de 48 FM depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission depuis la tournée Lozère Nouvelle Vie. Alors nous sommes arrêtés samedi au pont de Montvert et notre étape d'aujourd'hui est à Lavenne-Armand. Il fait un temps magnifique sur le Cosméjean et on va vous proposer aujourd'hui des rencontres comme d'habitude, trois rencontres et on commencera donc avec Monsieur Pain, le propriétaire et le gérant de ce site de Lavenne-Armand. On va parler de Jules Verne et de la découverte possible de ce site. On se retrouvera ensuite avec un de nos ambassadeurs, un ambassadeur dans le domaine de la culture aujourd'hui, avec donc Franck Vigroux et sa compagnie D'autres Cordes qu'il a installée en Lozère. Et puis nous terminerons cette émission avec un producteur local et il s'agira de Vincent Pralon de la fromagerie du Fédou à Yelzas, voilà, qui nous parlera de ses fromages et également de la vie sur le Cosméjean. Voilà, c'est parti, bonne émission depuis Lavenne-Armand.
Vous propose des activités pendant vos vacances.
Écoutez bien, on va peut-être parler de ce que vous allez faire ce soir ou demain.
Première partie de cette émission à Lavenne-Armand avec l'hôte de ces lieux, Monsieur Pain, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir pour cette tournée Lozère Nouvelle Vie à Lavenne-Armand.
Bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand dans notre contact, c'est avec toujours plus de plaisir qu'on accueille tous ceux qui veulent venir à Lavenne-Armand.
Alors, c'est le site le plus fréquenté du département, hein, si mes données sont justes.
Ben, je pense que vous avez de bonnes données,
effectivement. Voilà. Alors, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu ce site. Qu'est-ce qu'on y découvre?
Bah écoutez, ce site a été découvert en 1897 par Louis Armand, d'où le nom de Lavenne-Armand, bien sûr. Et par Martel, Édouard Alfred Martel, puisque c'était le premier grand spéléo de l'ère moderne, et qu'ils sont descendus ensemble et ils ont découvert ce magnifique site. Il a été exploité après, à partir de 1927. Les terrains ont été achetés en 1925-26. Il a fallu donc creuser un tunnel de 200 mètres de long pour descendre, puisque un avin, c'est un apic qui fait 80 mètres de profondeur, on ne pouvait pas descendre par là. Donc pour faire descendre le public, on a creusé un tunnel de 200 mètres de long, 360 et quelques marches qu'il fallait descendre à l'époque et remonter.
Et maintenant, c'est formidable parce qu'on n'a même plus besoin de marcher, c'est en funiculaire.
Voilà, maintenant, on a un funiculaire qui peut amener 50 personnes à chaque fois. Pourquoi 50 personnes? Parce que c'est en général la taille d'un groupe. Donc, on ne peut pas mettre plus et on ne veut surtout pas mettre plus.
Alors, décrivez-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, quand on arrive au bout du funiculaire, qu'est-ce qu'on découvre?
Alors donc, depuis l'année dernière, nous avons fait beaucoup de transformations et de modifications dans la visite. Nous avons changé tous les éclairages, qui étaient des éclairages traditionnels qu'on avait mis depuis quelques années. On est passé donc avec des éclairages LED pour des questions d'économie d'énergie, bien entendu aussi. Et ensuite aussi pour nous permettre de faire des variations de couleurs, de faire des tableaux lumineux que l'on n'avait pas avant. Et comme on a considéré que ça ne suffirait pas pour attirer un peu plus de public, on a basé notre visite sur l'histoire de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, entre imaginaire et réalité. Donc dès que l'on descend du funiculaire en arrivant, avant d'arriver à la plateforme, nous avons Jules Verne qui nous accueille, qui nous explique son histoire, en nous expliquant que tout le monde imaginaire qu'il avait pu imaginer, bien entendu, on le retrouve dans Lavenne-Armand.
Et alors, dans la veine, qu'est-ce qu'on découvre?
Donc après, donc on passe une porte, on arrive dans une grande salle, sur une plateforme qui domine toute la salle, puisque Lavenne-Armand, contrairement, est une grotte traditionnelle, est un aven. Donc c'est une salle unique, qui fait 100 mètres de long, 60 mètres de large et 40 mètres de haut. On dit qu'on pourrait y mettre la cathédrale de Paris dedans, donc c'est une immense salle. Voilà.
Oui, c'est vrai que pour les gens qui ont un peu peur, qui sont un peu claustrophobes ou qui auraient peur de se dire je vais être enfermé dans une caverne, c'est pas du tout le ressenti finalement, puisqu'il y a beaucoup d'espace finalement.
Voilà, il y a beaucoup d'espace. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui est vraiment claustrophobe qui ne puisse pas prendre le funiculaire. Voilà.
Alors, une fois, donc on voyage avec Jules Verne à l'intérieur de.
Voilà, donc toutes les visites sont des visites guidées, avec des guides qui font la visite en français. On peut faire des visites en anglais et en espagnol sur réservation, parce que quand on a plusieurs nationalités dans le même groupe, c'est difficile. On a mis un système au point maintenant qui permet aux étrangers de télécharger une application sur place ou chez eux, avec tout le commentaire de la visite dans leur langue. Il y a une dizaine de langues qui sont pratiquées là-dedans. Donc après, on fait cette visite, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette visite, on se retrouve de temps en temps, à quatre reprises dans la grotte, avec Jules Verne qui nous raconte son histoire. Et donc c'est très bien pour les enfants, parce qu'on s'était aperçu qu'une heure de visite, c'est très long pour des enfants, au point de vue attention, tandis que là, leur imagination est recaptée toutes les 10-15 minutes. Et ça permet à des groupes d'être beaucoup plus souples, beaucoup plus silencieux et beaucoup plus attentifs à ce que peut dire le guide.
Alors combien il peut y avoir de groupes en même temps dans la grotte ?
Alors les journées de grosse affluence, on peut avoir jusqu'à 6 groupes dans la grotte qui représentent 300 personnes.
Oui, c'est assez important. Vous avez aussi des animations qui ont lieu à l'intérieur de la veine, Armand ?
Oui, on essaie de faire des animations en plus des visites traditionnelles. Donc, au mois d'août, on a 3 concerts.
Voilà. Il y a un prochain départ. Voilà, vous vivez le site avec nous. Hein, c'est normal. C'est la vie du site qu'on suit.
Donc, on a un premier concert le 4 août qui est un concert de jazz. Mm-hmm. On a un concert le 12 août qui est un concert d'accordéon et de guitare. Où là, pour la première fois, on essaie de mettre un concept en place. On va essayer de faire danser les gens au fond de la grotte sur la plateforme des concerts. Et ensuite, on a un concert le 20 août qui est un hommage à des chanteurs français. Donc, c'est de la musique traditionnelle française. Voilà.
Et comment ça se passe ? Donc, il y a une plateforme qui est aménagée pour ces concerts.
Voilà.
Il y a un nombre de places, j'imagine, limité par contre.
Voilà, tout à fait. Donc, les places sont limitées à 300 personnes. Donc les concerts ont lieu à 21h, bien entendu, après les visites. Et ça dure à peu près 1h20.
Et il doit falloir prendre un petit pull quand même, peut-être, pour tenir. Et à quelle température est l'intérieur de la grotte ?
Voilà, il fait 12 degrés dans la grotte. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même très humide. Quoique actuellement, avec le temps qu'il fait, il y a moins d'humidité que d'habitude. Mais il faut quand même, si vous venez à un concert, prévoyez de vous couvrir, de prendre quelque chose de chaud.
Voilà, quand on vient, on peut le prévoir aussi, même pour une visite normale. Avoir
un petit
vêtement pour éviter.
Un petit gilet, ça suffit quand même.
Pour voilà.
Ça dure une heure, c'est pas
catastrophique. Oui, mais c'est plus pour éviter le choc thermique entre les 40 degrés extérieurs et les 12 à l'intérieur. En tant qu'acteur touristique, forcément, la Lozère, vous êtes ici sur ce site-là directement lié, mais finalement, pour vous personnellement, quel serait votre attachement à la Lozère ?
Mais mon attachement dans la Lozère, il ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis toulousain d'origine, hein, mais il faut savoir que c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon grand-oncle qui ont fait partie des gens qui ont racheté le terrain. Et comme ils avaient une entreprise de bâtiments et de TP, c'est eux qui ont creusé le tunnel. Donc, nous sommes dans la veine Armand depuis, c'est la quatrième génération. Et tous les gens qui sont au conseil d'administration de la veine Armand, puisque c'est une société anonyme, font partie des descendants de ceux qui ont racheté le terrain. Donc on se retrouve à 5 familles, on est sur la 3e, 4e génération, tout le monde s'entend bien et ça fonctionne bien, tout le monde est content.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui veulent avoir un projet en Lozère, un projet touristique peut-être, mais aussi un projet dans différents domaines ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Un conseil ? Vous avez ce rôle d'entrepreneur finalement sur la Lozère. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme message ?
Mais on dit que la Lozère est un des départements les moins peuplés de France, mais c'est quand même un département qui est magnifique, avec des variations que si vous êtes à la Lozère Nord ou la Lozère Sud, c'est totalement différent. Et on a besoin d'entreprises, bien entendu, et vous serez toujours bien accueillis, puisque tous les gens en général qui arrivent en Lozère, c'est un peu comme les ch'tis, quand ils en repartent, ils pleurent. Donc c'est un pays magnifique et il faut à tout prix le continuer à le développer tel qu'il le mérite.
Merci beaucoup, Monsieur Pain, de votre accueil. Ah, une petite, un petit.
Oui, je peux rajouter quelque chose. C'est-à-dire les caractéristiques de notre aveine, de notre grotte, non seulement avec la visite, mais c'est surtout que vous avez la plus grande concentration de stalagmites connue dans le monde à l'heure actuelle.
Ça, c'est important de préciser.
Voilà, on a plus de 400 stalagmites de plus de 1 mètre de haut, ce qui est absolument unique dans le monde connu. Peut-être qu'il y en a d'autres déjà, mais enfin, on ne sait pas. Et on a la plus grande stalagmite connue dans le monde qui fait plus de 30 mètres de haut. Donc voilà, c'est entre, vous verrez, la visite, c'est entre imaginaire et réalité, et vous verrez que c'est pas du bluff, que c'est vrai.
Alors peut-être vous pouvez nous rappeler le site internet pour avoir tous les renseignements sur.
Alors le site internet, c'est aven-armand.com.
Armand avec un D.
Avec un D, bien entendu.
Voilà. Et donc on peut retrouver toutes les animations, les visites. Est-ce qu'il vaut mieux réserver ou...
Non, si c'est des groupes, oui, mais en individuel, c'est pas la peine. Nous sommes ouverts jusqu'à fin août, de 9h30 jusqu'à 18h. La dernière visite est à 18h. Vous pouvez vous restaurer sur place. Il y a un resto, un bar, un snack. Il y a tout ce qu'il faut.
Merci beaucoup en tous les cas de votre accueil sur ce site. Et puis voilà, allons découvrir avec Jules Verne cette aven Armand. C'est une belle promesse pour les touristes et pour les Lozériens qui veulent aussi redécouvrir ce site. Ceux qui l'ont connu il y a 2 ou 3 ans peuvent venir aujourd'hui le redécouvrir avec cette nouvelle scénographie et cette nouvelle mise en lumière.
Tout à fait.
Voilà, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt, au revoir.
À bientôt.
Ils développent leur projet en Lozère.
Partons à la rencontre de l'un des ambassadeurs Lozère Nouvelle Vie.
Alors, deuxième partie de cette émission depuis l'Aven Armand, et nous retrouvons l'un de nos ambassadeurs. Bonjour Franck Huigrou.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous ici à l'Aven Armand. Peut-être on va vous demander de nous dire un petit peu qui vous êtes déjà, parce que tout le monde ne vous connaît peut-être pas, même si vous êtes un ambassadeur très connu dans le monde.
Sachez pas, en tout cas je suis artiste. Je crée des spectacles, je suis musicien et voilà, mon travail consiste à générer une activité autour du spectacle vivant et de la musique. Donc je suis aussi j'ai créé une compagnie qui est basée en Lozère qui s'appelle D'autres Cordes et avec laquelle régulièrement nous produisons ici.
Alors, vous êtes originaire de Lozère ou vous êtes...
Absolument.
Voilà, et donc vous avez fait le choix d'avoir ce projet culturel, ce projet artistique en Lozère.
Absolument. J'ai eu la chance aussi de faire des rencontres déterminantes pour pouvoir bien structurer ma compagnie. Il faut trouver des moyens, des lieux d'accueil, de diffusion et... Et ça a été le cas avec ma rencontre avec le directeur des scènes croisées, mais aussi d'autres acteurs comme le théâtre de la Mauvaise Tête, etc., qui sont des théâtres ou des lieux de spectacle propres à ce que mon activité y soit développée.
Alors comment vous définiriez un petit peu votre style musical, parce que c'est pas forcément facile. Alors, on a des guêpes qui essayent de nous combattre.
Non, j'arrive pas vraiment à le définir, mais tout ce que je fais se situe vraiment dans un langage contemporain. Mm-hmm. Voilà.
Et vous avez vous souhaitez exprimer quelque chose au travers de cette musique?
Je pense que de toute façon, toute œuvre d'art, tout ce qui fait œuvre exprime quelque chose. Après, je vais peut-être pas m'étendre, mais tous mes spectacles sont évidemment remplis de dramaturgie, de sujets, etc.
Et quels sont vos sujets d'inspiration, justement?
Alors, pour le prochain spectacle que je vais créer, ce sont les ruines contemporaines.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire des bâtiments contemporains qui sont désaffectés
ou... par exemple, mais c'est aussi tout ce qui fait ce qu'on peut faire de ces ruines, c'est-à-dire à quoi elles servent.
D'accord.
Pourquoi elles sont toujours debout? Pourquoi est-ce qu'elles ont une fin politique, etc. Est-ce qu'elles ont aussi une fin pour marquer l'histoire, pour réécrire l'histoire? Dans quel concept? Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse dans ce sujet.
Et comment derrière vous passez de cette idée à une création musicale?
Alors bon, la création musicale vient assez naturellement chez moi. C'est une pratique que je fais quotidiennement et qui aujourd'hui, comme si voilà, un peintre, je suppose, se met devant sa toile et sait où il va de toute façon. Donc moi, c'est mon expérience qui me fait aujourd'hui aller. Dans les recherches sonores, compositionnelles, formelles, etc., où je suis.
Et vous enrichissez votre création de sons, de choses qui viennent de l'extérieur, comment vous assemblez finalement un peu les différentes choses?
Alors, ça, c'est un vaste sujet. Je travaille avec énormément de matériaux et... Et c'est vraiment la recherche qui fait que je vais trouver, de nouveaux composants que je vais assembler. C'est la cuisine, une sorte de cuisine en fait. Hein.
D'accord. Alors vous êtes lausérien, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Votre attachement à la Lozère, vous le définiriez comment?
Parce que... évidemment, c'est difficile. Bah, je suis attaché comme tout être sur cette planète au lieu où il est né, sur lequel il est né. Donc, évidemment, c'est chez moi. Voilà. Après, que dire d'autre? C'est une évidence pour moi.
Et aujourd'hui, votre activité se passe bien en Lozère. Vous avez finalement tout ce qui vous convient pour vous développer en Lozère.
Oui, j'ai en tout cas pour ce travail de compagnie, aussi de collaboration avec les acteurs locaux, régionaux, etc. Je peux dire que c'est vraiment positif. Après, je suis évidemment obligé de me projeter et d'être mobile en permanence. Et,
oui.
Et c'est pas le plus simple. Vous pouvez bien imaginer. Mmh. Mais bon, voilà, c'est un choix entre deux modes de vie.
Et donc, quand vous vous projetez, c'est aussi la Lozère finalement que vous emmenez avec vous. C'est un peu ça votre fonction d'ambassadeur d'une certaine façon. Vous allez partout dans le monde.
Absolument. Après, je ne sais pas si j'amène de la Lozère avec moi. J'amène peut-être un peu d'accent, mais évidemment, on sait que je travaille, j'ai une activité particulière ici, dans le sud de la France, etc. Voilà, et puis il y a des images, il y a beaucoup de vidéos qui se tournent ici aussi, etc. Donc, bon, évidemment, ça contribue un peu à faire circuler.
Oui, vous faites des vidéos qui s'intègrent dans votre spectacle? Ou plutôt
mais pas mal de vidéos qui sont sur mes sites internet, etc., ont été tournées par exemple à Mende de concerts.
D'accord, oui, ok.
Voilà. Okay. Et certains, il y a des dizaines de milliers de vues.
Oui, et qui sont sur des prises, sur des captations,
c'est fait
sur
ici,
des spectacles
donc,
en Lozère.
On peut voir que ça a été fait ici, donc ça peut être fait ici aussi.
Alors justement, comment vous trouvez l'offre finalement culturelle en Lozère? Parce que on a souvent l'a priori d'une offre assez réduite, mais au final, elle ne l'est pas.
Si je compare à d'autres départements, elle est vraiment. Elle est vraiment riche.
À la fois dans la diffusion et la création.
Bien sûr. Moi, ce que je peux dire, c'est que... On va laisser passer le départ.
Ouais. Hein.
C'est que quand j'ai grandi ici, et j'étais au lycée dans les années 90, 80-90, c'était vraiment le désert culturel absolu. Donc là, on partait avec un habitus très défavorable, dirais-je. Et puis aujourd'hui, depuis les années, début des années 2000, il y a eu une accélération, une espèce de vulgarisation de la chose culturelle et qui est très très positive. Et donc je pense que pour l'éducation, je dis pas qu'il s'agit d'éducation, pour l'émancipation, c'est vraiment ça dont il s'agit. Évidemment, moi je suis sur des terrains contemporains, souvent critiqués parce que pas compris, mais je veux dire, tous les artistes sont toujours décalés avec la pensée unique, mais je aujourd'hui dans un département comme celui-là, je peux dire que l'offre est vraiment exemplaire parce que je voyage beaucoup aussi en France et il y a beaucoup d'endroits où il y a un énorme retard, quoi. Et donc là je pense vraiment là aux enfants, aux adolescents qui grandissent et étudient ici.
Et qui donc ont cette offre autour d'eux.
Bien sûr. Et donc l'accès à toutes ces formes d'art, toutes ces cultures qui étaient absolument inaccessibles il y a 15 ans.
Alors, pour des gens qui souhaiteraient justement s'installer en Lozère, finalement, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Parce que donc voilà, il y a cette offre dont on vient de parler, cette offre culturelle qui est une richesse aussi pour pouvoir s'installer. Mais voilà, vous avez développé des projets en Lozère. Finalement, quels conseils vous donneriez à des personnes qui souhaiteraient développer leurs projets en Lozère et s'y installer pourquoi pas s'y installer ?
Là, je ne sais pas, ce serait bien prétentieux de ma part de donner des conseils, mais...
Peut-être par rapport à votre expérience, de dire ouais. qu'est-ce que vous avez fait qui pour vous a été un élément fort, ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait et que vous regrettez de ne pas avoir fait, peut-être.
Je ne vais pas parler de regrets, mais en tout cas, je pense qu'il y a aujourd'hui plus d'ouverture et plus de facilité à être sur des projets innovants, aussi en milieu rural. Évidemment, c'est tout ça, l'Internet, les autoroutes se sont vraiment développées. Du coup,
c'est l'innovation dans le monde rural. C'est finalement ça que vous pouvez dire, c'est qu'il y a une place pour l'innovation dans nos territoires.
La preuve, je suis la preuve.
Alors, pour terminer cet entretien, je vous propose peut-être une petite logique de portrait chinois. Si vous étiez un animal ou un animal préféré ?
Ah, vous me prenez de court.
Ah, c'est fait pour. Ouais, il y a beaucoup de guêpes autour de nous, mais...
Je sais pas, je suis désolé.
Allez, une chanson. Alors, c'est peut-être compliqué pour vous.
Non, je n'y arriverai pas.
Ouais. Vous n'y arriverez pas ?
Non, non.
Non plus. Votre lieu préféré en Lozère ?
Mon lieu préféré en Lozère, j'habite au monastier. C'est mon lieu préféré.
Allez, voilà. Ok. Une drogue favorite ?
Le travail.
Ah, intéressant. Une citation, je sais pas, une citation que vous avez en tête comme ça, non ?
Non,
je vous prends trop de cours. Et alors, on va terminer avec la question que je pose d'habitude. Un rêve ? Allez, elle est dure cette question, je le sais.
Vous me prenez trop de cours, hein. J'arrive pas là.
Bon.
Sans préparation. Hein.
Bon, en tous les cas, merci d'être venu nous livrer un petit peu de cette expérience de vos projets en Lozère. C'est ça qui aussi est riche, et effectivement, dans ce domaine de la culture, c'est un élément important pour notre département. Merci beaucoup, Franck Vigreau.
Ils nous procurent des plaisirs authentiques avec leurs produits ou leurs créations.
C'est le moment de saliver avec un producteur.
Troisième partie de cette émission depuis la Veine Armand, avec comme d'habitude un producteur local. Et donc nous recevons Vincent Pralon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un ultra local de l'étape, hein, puisqu'on est à quelques centaines de mètres.
3 kilomètres.
3 kilomètres, allez. 3 kilomètres, voilà, donc ici, depuis la Veine Armande, donc de Yelzas, ce petit village dans lequel est installée la fromagerie du Fédou.
Exactement, la fromagerie Le Fédou, qui est implantée à Yelzas. On fait du Fédou à Yelzas depuis les années 70, lorsque le troupeau lait a été utilisé à 100% pour la production et la création d'un nouveau fromage. Et aujourd'hui, nous employons une vingtaine de personnes sur le village de Yelzas, qui compte 50 habitants.
Et pour la production.
Alors, il y a 20 personnes au total dans la fromagerie, administratif, production, vente, livraison, d'accord, expédition. Et nous commercialisons un petit peu partout en France, principalement dans la région, la grande région, on va dire, autour de la Lozère. Mais également, nous sommes présents sur Paris et bien implantés sur divers grossistes un petit peu partout en France, sur l'Est, sur l'Ouest, le Nord, le Sud.
Alors, en quoi consistent ces produits, justement ?
Alors, notre métier. Nous
saliver un petit peu.
Ce sont des fromages de brebis au lait cru. Donc, on collecte le lait auprès d'une dizaine de fermes sur le plateau du Mégen et du Sauveterre. Et on s'est toujours beaucoup plu à travailler différentes technologies avec ce lait cru, à savoir des technologies lactiques, des technologies plutôt présure, des technologies pâte molle. Donc on découvre à la fromagerie des fromages de type Perrail, le traditionnel Perrail qui est toujours en long combat pour obtenir l'AOC. On travaille aussi des tomes, on travaille des fédous, donc qui est une sorte de camembert de brebis. Très onctueux, très, très savoureux. Et on a mis au point ces dernières années quelques nouveautés, puisque dans notre parcours, on est toujours animé de vouloir créer et mettre au point des nouveaux produits. Donc les derniers nés de notre gamme sont le Clausou, donc un fromage de brebis à pâte qu'on qualifie de mixte, donc cerclé d'épicéa. On le compare un petit peu au Mont d'Or, pour avoir un petit peu l'effet texture et saveur. Alors en brebis, effectivement, c'est très savoureux. Le côté boisé s'allie très bien avec le côté onctueux et doux du fromage de brebis. Et le dernier né de l'année dernière, c'est la brique cendrée. Puisqu'en brebis, nous avons été les premiers à mettre au point un format brique de brebis en 1992. Et aujourd'hui, on a cherché à revisiter un petit peu ce produit qui commençait à s'essouffler. Et on lui a redonné véritablement un second souffle en retravaillant toute la technologie pour obtenir un fromage très onctueux, très savoureux et qui est cendré. Donc qui donne un aspect plutôt gris sur les plateaux et qui contraste bien avec le côté plutôt blanc des fromages traditionnels.
Donc toute une gamme à découvrir. Donc on la trouve partout en Lozère et autour de... dans cette grande région que nous allons bientôt faire avec Midi-Pyrénées, c'est ça à peu près cette zone, je sais pas, 200-300 kilomètres autour de.
Voilà, ben, nous sommes plutôt bien présents, bien implantés sur la Lozère et les départements limitrophes. Ensuite, au-delà, ce sera essentiellement le réseau traditionnel Crémier, chez qui on va pouvoir retrouver nos bons fromages. Donc tout un chacun peut demander à son meilleur crémier, s'il ne les a pas déjà, de se procurer des fromages du Fédou. C'est très simple à faire.
Et par contre, pas de vente sur Internet, produit trop fragile.
La vente sur Internet, pour nous, c'est assez restreint, effectivement. On le limite essentiellement aux tomes, puisque c'est les produits qui se prêtent le mieux à des voyages par la poste ou par messagerie. C'est vrai que les produits les plus fragiles, on a eu trop de mauvaises expériences et on préfère les vendre dans des réseaux où la chaîne du froid est respectée.
Est-ce que, donc, on a parlé tout à l'heure du Perrail et de la démarche de labellisation AOP. Est-ce que vous avez des fromages qui sont inscrits dans des labels de qualité, qui soient AOC, IGP ou même des marques peut-être
Alors à ce jour, nous n'avons pas encore de fromage qui soit AOP ou IGP. Tous nos fromages, parce que nous sommes sur le territoire de Lozère et de Montagne, donc tous nos fromages bénéficient de ces qualités, fromage de Lozère et fromage de Montagne. Également, tous nos produits sont des produits sud de France.
De la marque régionale.
Voilà, la marque régionale à laquelle nous avons adhéré dès le départ du lancement de cette marque Sud de France. Nous avons senti les bénéfices que à l'autre bout de la France ou même des fois en local, cette identité pouvait faire transpirer.
Alors, vous êtes originaire de Lozère.
Exact.
Comment vous décririez votre attachement à ce département et à ce terroir, ce territoire ?
Pour moi, c'est presque viscéral, je dirais. C'est le cœur, c'est tout le... Tout, je suis animé de la vie de ce département et de vouloir faire vivre ce département et en particulier le secteur du Cosméjan sur lequel nous sommes aujourd'hui.
Il n'y avait même pas question à un moment. Enfin, vous avez jamais eu l'idée d'aller faire votre vie ailleurs
que... Ah si, j'ai essayé. si, ben, à la suite d'études, pas du tout dans le domaine de la fromagerie d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de parcourir certaines régions de France et de commencer à m'installer dans d'autres régions. Et voilà, et le cœur m'a ramené à vouloir mettre mon énergie à faire vivre ce territoire parce que je me sens l'héritier de tout un tas de gens qui ont voulu et qui se sont battus pour que ce territoire reste vivant. Parce qu'à l'époque de l'exode rural, c'était pas évident d'imaginer l'avenir sur, en particulier sur le Cosméjan, hein, la région la moins peuplée de France, avec moins de 2 habitants au kilomètre carré. Et ça a été un combat pour avoir l'eau courante sur le Méjan, développer et maintenir des activités. Et tout ça, ben aujourd'hui, moi, je me sens vraiment l'héritier de ce combat-là. Je parle de combat parce qu'aujourd'hui, c'est encore un combat, hein, de vouloir vivre ici et maintenir des activités ici. On voit des pressions fortes sur des choses qui ont des conséquences directes sur notre métier de fromager, hein, puisque quand on parle, par exemple, de l'arrivée du loup sur le Cosméjan, c'est des exploitations qui sont mises à mal. Et nous, si demain, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus de brebis sur le Cosméjan, la raison d'être de la fromagerie, elle disparaît. Donc on fera peut-être autre chose, mais en attendant, on va se battre pour pouvoir continuer de faire ce qu'on aime.
Et vous avez, autour de la fromagerie, tout un développement aussi du village d'Alsace qui est animé par ses habitants. Et j'imagine que vous y prenez part, bien sûr. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Tout à fait, oui. Donc le village d'Alsace, c'est vrai qu'on s'emploie... à ce qu'il soit dynamique, comme on a envie de le faire vivre. Et c'est vrai que depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, on organise plutôt tous les 2 ans une journée porte ouverte sur le village, où on partage avec les gens qui veulent nous rendre visite à ce moment-là tout notre savoir-faire et tout notre envie de vivre et d'être heureux là où nous vivons. Donc il y a sur le village effectivement un menuisier qui s'est installé il y a 5 ou 6 ans maintenant, à peu près. Donc ce menuisier qui partage son savoir-faire sur la menuiserie, la charpente, les maisons au saturbois.
On est à la Veine Armand, il va bientôt y avoir un funiculaire qui descend.
Nous avons aussi eu un boulanger sur le village, donc la Daniel Paco, qui aujourd'hui n'est plus en activité pour des raisons de santé, mais qui continue d'être très dynamique sur le village, qui construit avec ses enfants des maisons assez atypiques qu'on a pu découvrir à l'occasion de l'édition 2015 de La Porte Ouverte. Et puis voilà, et puis c'est tous les habitants du village qui se mettent à contribution pour rendre le village dynamique avec la participation à l'organisation de ces journées, faire cuire les saucisses, participer au service et présenter pour ceux qui veulent également leur savoir-faire. On a eu cette année une troupe de cirque qui a présenté un petit peu son savoir-faire et qui sera en représentation à Alsace le 25 août, si je ne me trompe pas.
Voilà, donc il y a des rendez-vous aussi pour cet été sur Alsace.
Tout à fait, voilà. La ferme Cosnard également, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais qui reste un des piliers de l'activité touristique sur le village, puisque c'est l'occasion de découvrir comment vivaient les anciens Cosnards sur les siècles précédents.
De découvrir aussi l'architecture typique du Cos.
Voilà, tout à fait. C'est une ferme qui a été restaurée et rétablie dans l'état qu'on aurait pu la trouver dans les années, fin des années 50, quoi. Et on retrouve à l'intérieur tout l'outillage, tout le mobilier d'une ferme traditionnelle cosenarde.
Alors, peut-être pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'installer en Lozère, qui voudrait voilà développer ses projets ici, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais d'oser, parce que je crois que dans tout projet de création ou d'installation, il y a effectivement des fois ces freins qui sont qu'on n'ose pas trop. Et qu'il y a vraiment de quoi oser vouloir vivre en Lozère, ce serait mon principal conseil. Et puis oser surtout d'être dans des choses vraies, parce que la Lozère c'est des gens vrais, c'est des projets vrais, et tout ce qui marche en Lozère c'est quand les gens sont honnêtes avec eux-mêmes et avec les gens qui les entourent.
Très bien. Alors on va peut-être rappeler peut-être un site internet sur la fromagerie.
Oui, donc le site de la fromagerie, c'est fedou.com, tout simplement.
Voilà, on peut retrouver toute la gamme, les lieux de commercialisation aussi, peut-être, un petit peu.
Alors, les lieux de commercialisation,
pas trop.
On peut, au cas par cas, quand c'est possible, donner des adresses. Mais c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec des grossistes. D'accord. Qui revendent après auprès de crèmeries. Donc, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir l'adresse finale.
Voilà, et donc à découvrir pour tous ceux qui sont là en Lozère, tous ces fromages à découvrir. Merci en tous les cas d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et de
Merci
nous avoir fait découvrir ces produits et puis toute cette dynamique aussi d'installation et de vie sur ce territoire. Merci.
Merci, à bientôt en Lozère et à Yelzas.
Merci. Réécouter cette émission sur le blog de la tournée, donc tournée-lozère-nouvelle-vie.tumblr.com. Vous pouvez également réécouter cette émission en chacune des interviews après l'agenda de l'été dans la matinale, donc à 7h30, 8h30 et 9h30. Notre prochaine étape sera demain à La Malène, donc soyez au rendez-vous. Bonne journée, à bientôt.
L'émission que vous venez d'entendre a été présentée par Guillaume Delorme depuis la tournée estivale Lozère Nouvelle Vie.
Une émission de 48 FM en partenariat avec le département de la Lozère.